France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Hi, Dolly. Darling.
I adore your work. I just adore your work. I adore what you
do. Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi j'ai cessé de dessiner? Tous les enfants laissent dans les marges de leur cahier d'écolier ce que Gottlieb appelait des petits Mickey. Et puis un jour, c'est terminé. Allez savoir pourquoi. Ils lâchent leur crayon et c'en est fini de cette enfance de l'art qui fait des enluminures avec les blancs de l'existence. Enfin, pas tous. Certains ne lâchent pas l'affaire. On les appelle des dessinateurs. Mais ce sont juste des enfants qui n'ont pas renoncé à dessiner. Je dessine encore aujourd'hui sous le coup de l'excitation éprouvée à dessiner enfant, affirme Emmanuel Guibert, auteur, entre autres merveilles, d'Ariole, le petit Nicolas de notre temps. Je lis cela dans le dictionnaire amoureux de la bande dessinée de Benoît Peters, à l'article « Dessiner » et redessiner, qui pose au fond la seule question qui vaille, surtout lorsque l'on s'intéresse à la technique même de la BD, inévitablement laborieuse. Comment continuer à dessiner sans se lasser? Car avec ses planches, ses cases et ses ellipses, ce qui caractérise formellement la bande dessinée, au fond, c'est le passage à vide. Alors, je sais à qui je vais demander pourquoi j'ai été assez sot de penser que pour grandir, je devais cesser de recopier la coccinelle de Gottlieb et ses dessins de rubrique à braque qui m'enchantaient pourtant. Je vais le demander à Benoît Peters, notre invité dans Allons-y voir, avant d'être rejoint par notre sociétaire du jour, Hortense Bellotte. Et avant, on va écouter un très joli son de Kiriko Nananan. On va en reparler tout à l'heure dans le documentaire Arte, comics profession mangaka de Benoît Peters.
La scène des cheveux coupés est décrite en seulement trois cases. Mais elles sont chargées de signification. Aujourd'hui, j'en ai 32. À l'époque, je dessinais des compositions que je ne suis plus capable d'imaginer aujourd'hui. J'étais jeune et mes idées étaient très libres. Je pense que je ne pourrais plus jamais dessiner une scène comme celle où les cheveux tombent par terre. C'est la jeunesse qui m'avait poussé à le faire.
C'est ma jeunesse qui m'avait poussé à le faire. On va retrouver cette magnifique planche de Blue dans quelques moments, puisque ce qu'on va faire avec vous, Benoît Peters, c'est aller cheminer tranquillement d'une planche à l'autre. Bonjour Benoît Peters.
Bonjour Patrick Boucheron.
Entre la réflexion et la création, je me suis toujours refusé à choisir, écrivez-vous dans Écrire l'image, un itinéraire, votre autobiographie publiée en 2009 aux Impressions Nouvelles. Et de fait, de la bande dessinée, vous êtes à la fois le théoricien et le praticien, l'historien et l'amoureux. Votre dictionnaire amoureux de la bande dessinée vient de paraître, je l'ai dit, cette année, chez Plon. Vous avez occupé la chaire poétique de la bande dessinée au Collège de France, où vous avez prononcé votre leçon inaugurale, Un art neuf, publié en 2023. Mais vous êtes aussi le scénariste, évidemment, de la série Les cités obscures, avec François Squitten, depuis 1983, traduit dans de nombreuses langues. Et je m'épuiserai, Benoît, à citer tous vos livres, notamment vos biographies d'Hergé, de Sandor Ferenczi, d'Alain Robbe-Grillet, de Jacques Derrida, qui composent un autre dictionnaire amoureux, celui de la modernité. Car nous allons voir ensemble, pas seulement lire, mais voir, puisque écrire l'image, c'est aller à la rencontre de la puissance visuelle de la bande dessinée, alors que pourtant, vous êtes un fils du texte. Ce qui vous intéresse au départ, c'est le roman, c'est le nouveau roman, c'est la théorie.
C'est vrai. J'étais... pendant l'adolescence et pendant mes études, du côté des mots, mais avec cet ancien amour, ce très ancien amour d'Hergé, que j'ai voulu pousser plus loin. Et donc, à l'époque, la bande dessinée n'entrait pas du tout à l'université. J'ai eu la chance d'être un des derniers étudiants de Roland Barthes, qui, lui, était ouvert à toutes les formes d'expression, qui n'était sans doute pas un lecteur d'Hergé, mais qui a accueilli avec beaucoup de bienveillance ma lecture des Bijoux de la Castafiore.
Ben, on va en parler, justement. On va commencer. Ben, tenez, c'était une série fiction sur France Culture en 1963 qui dit, commençons par les mots, la première planche des Bijoux de la Castafiore.
Le printemps tintaille, c'est vrai. Regardez autour de vous, partout la vie, les feuilles, les fleurs, les oiseaux, les insectes. Oh, et ces parfums subtils, Tintin.
Mais à mon avis, capitaine, votre air ne sent pas précisément le muguet par ici.
Hein, qu'est-ce que vous dites, mon air ne... Ah, tonnerre de Brest, vous avez raison. Oh, je comprends, voilà l'explication.
Cette décharge municipale, hein?
Mais oui, c'est là qu'on déverse tous les détritus, résidus de fonds de poubelle de la région, c'est infect. Et ce que je ne comprends pas, c'est que des gens soient attirés par cette planteur. Voyez-moi ces roulottes au bord de la route.
Les romanichels, sans doute,
oui. Aucun sens de l'hygiène, ces oeufs-là.
Chut! Écoutez, on dirait une enfant qui pleure.
Là, on vient d'entendre tout ce qui est écrit dans les bulles, dans les phylactères.
Avec quelques petites altérations du dialogue, d'ailleurs, alors que les mots sont si précis chez Hergé. Mais évidemment, ce qu'on perd, c'est toute l'information que l'image est en train de nous donner. Et par exemple, première case,
je vous la donne.
La clé de l'énigme.
Eh oui, c'est à la première case.
Il se promène dans la campagne, proche de Moulinsart. Et puis, ben, comme un détail anodin, en haut d'une branche d'arbre, dans le sommet de la case, on aperçoit une pie.
Et ça, alors, on l'aperçoit à la fin, quand on a...
On l'aperçoit, surtout quand on relit.
Quand on relit.
Mais c'est cette attention extraordinaire portée par Hergé au moindre détail, au moindre jeu de l'image et du texte. C'est cela qui me fascinait quand j'analysais les Bijoux de la Castafiore. Ces interactions, par exemple là, cet indice qui nous est donné. Mais un peu plus loin dans la page, on voit à l'avant-plan un écureuil. Or, cet écureuil, lui, c'est un effet de réel. Il appartient simplement au décor de la forêt. Mmh. Alors, il y a ces détails extrêmement signifiant dans le texte et dans l'image, et puis en même temps quelque chose qui glisse, qui passe, qui semble tout naturel. Les Bijoux de la Castafiore, c'est un album incroyable, puisque c'est un album tardif d'Hergé, où on a l'impression qu'il joue avec son propre univers, avec ses propres codes, avec tout ce langage de la bande dessinée qu'il a merveilleusement maîtrisé au
fil des ans. Dès la couverture, d'ailleurs, elle est assez caractéristique, ou d'une certaine manière étrange, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette couverture.
Mais à l'avant-plan, Tintin se tourne vers nous. Oui. Si on était au cinéma, on dirait qu'il a un regard caméra, il est face caméra. Il nous fait signe d'être silencieux, de ne rien dévoiler, peut-être pour laisser la Castafiore chanter tranquillement. On la voit à l'arrière-plan, mais peut-être aussi pour nous dire de ne pas dévoiler la clé de l'énigme, ce que je viens de faire à moitié en parlant de la pie. Et peut-être m'envoyait-il un message me disant « Attention, attention, Benoît Peters, n'essayez pas de trop décrypter les Bijoux de la Castafiore, qui pourtant s'y prêtent merveilleusement. » Par exemple, sur cette couverture, je vois aussi le titre « Les Bijoux de la Castafiore ». Les deux O sont remplacés par des bijoux. Rouge et vert, deux couleurs qui vont jouer un rôle énorme tout au long de l'histoire, qui seront sur les costumes de la Castafiore, etc. Donc, on s'aperçoit là, par exemple, dans cette lettre devenue image, de tout ce qu'Hergé a compris des possibilités de la bande dessinée. Un texte qui ne soit jamais redondant, un dialogue qui soit en contrepoint, qui livre des informations, qui en dissimule d'autres. Voilà tout l'art d'Hergé que j'ai essayé d'exhumer. Au fond, ce que je voulais faire à cette époque-là, c'était lire une bande dessinée, comme on peut lire un grand texte littéraire, comme on peut lire un film, comme on peut lire un tableau.
Mais avant, il y a effectivement le jeune Benoît Peters qui vit en Belgique, dans effectivement la terre promise de la ligne claire, qui rencontre Françoise Cuiten à l'école, vous allez le retrouver plus tard, qui dessine et qui ensuite renonce à dessiner, mais qui va
voilà, nous
écrire,
dessinons ensemble, nous travaillons ensemble. Même, nous peignons ensemble sous la conduite de son père, dont nous sommes les deux seuls étudiants. Malheureusement, lui, il bénéficie des cours de son père depuis l'âge de 3 ou 4 ans, et donc, quand nous nous rencontrons à 12 ans, il a déjà une sérieuse avance, et moi, je vais insensiblement me tourner vers les mots.
Et puis, vous l'avez dit, vous vous tournez vers les mots avec un maître, Roland Barthes. Écoutez-le parler justement, c'était en 1977, de son rapport au dessin.
Dessiner, bon, le terme d'abord est impropre, parce que ce que je fais, à des moments perdus, d'une façon très anarchique et très libre, ce ne sont pas vraiment des dessins, c'est plutôt des... C'est un mélange, disons, de coloriage et de graphisme, d'écriture. C'est une chose qui m'est venue très tardivement. Je dirais jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, jamais je n'aurais osé manier un crayon, et même dans les réunions, les assemblées, où il est classique de faire des graffitis pour moins s'ennuyer, je n'osais même pas avoir ce geste. Et puis, je me rappelle très bien, si je peux dire, c'est une anecdote enfin purement biographique, mais quand je suis à la campagne pendant l'été, je ne peux pas, disons, lire et écrire tout le temps. C'est pas possible, le corps s'y refuse. Alors comme au fond, je ne fais pas de sport, je reste volontiers à la maison, alors j'avais eu l'idée de m'astreindre un peu chaque jour à copier des images, simplement pour le plaisir du geste manuel, un peu comme autrefois, disons, les hommes eux-mêmes faisaient de la tapisserie, ce qui est maintenant interdit par la morale virile, mais disons donc un substitut du tricot, de la tapisserie, qui consisterait à copier même des images, même dans un dictionnaire. Et alors j'avais demandé à un ami qui connaît bien la peinture et qui est Daniel Cordier, de me dire simplement quel crayon et quel papier il fallait que je prenne. Et il m'a donné ce conseil essentiel et très simple et très juste, très judicieux. Il m'a dit, n'essayez pas de reproduire analogiquement des dessins que vous voyez, n'est-ce pas ? Lancez-vous tout de suite dans ce qu'on appelle l'abstrait. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et donc, au lieu d'avoir à faire une sorte d'apprentissage énorme de ce qu'on appelle le dessin, je me suis mis donc à cette pratique très spontanée de coloriage et de graphisme. Je ne le fais pas très souvent, ça dépend des périodes, mais j'en ai toujours une très grande joie. C'est comme une sorte de... C'est ma façon à moi de faire du sport.
Think of curling your pubic bone up toward your navel. Feel how that lengthens and straightens your back.
France Culture.
Your knees may be very slightly bent. Now lift up your head tall.
Allons-y voir.
Inhale through your mouth.
Patrick Boucheron.
And exhale.
Benoît Peters, entendre Roland Barthes, c'est entendre la voix qui vous a mené à cette analyse structurale des bijoux de la Castafiore, case par case.
Comme... Un peu sur le modèle de son SZ, où il lisait la nouvelle de Balzac, Sarrazine, mais évidemment, dans SZ, il n'avait à faire qu'à du texte, et moi j'essayais déjà timidement, à l'époque il n'y avait pas tant d'outils théoriques sur la bande dessinée, j'essayais timidement de voir cette dialectique étrange entre le texte et l'image, entre l'image isolée et la séquence, voilà, c'était aussi tout cela qui était au travail. Ça m'émeut évidemment d'entendre Barthes parler si modestement de sa pratique du dessin. On sait que ces graphies, puisque c'est un peu le mot qui s'est imposé, ont aujourd'hui été publiées et certaines sont extrêmement belles, même si elles sont dessinées souvent sur des feuilles de l'école des hautes études, etc. Mmh. Mais il y a vraiment une grande force dans ces dessins, dans ce qu'il considérait exactement comme le piano, comme une pratique d'amateur et qui pourtant était nourrie, je crois, de tout ce qu'il était.
On lui conseillait d'aller à l'abstraction.
Daniel Cordier, c'est pas n'importe
c'est
qui.
C'est pas n'importe qui, évidemment.
C'est merveilleux.
Et vous, d'une certaine manière, vous y avez été, à l'abstraction. Vous avez, je l'ai dit, fait la biographie de Derrida. Vous avez beaucoup travaillé sur Rob Grillet. Et vous avez aussi cette pratique de la bande dessinée comme scénariste. Vous avez l'un et l'autre, mais jamais l'un en même temps que l'autre. Hein. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous voulez pas de forme hybride. Quand vous faites de la bande dessinée, vous faites pleinement de la bande dessinée.
C'est ce que disait Umberto Eco, et j'essaye de le suivre sur ce terrain. Il disait, quand je fais un travail scientifique, en l'occurrence sémiologique, je suis pleinement sémiologue, et quand je suis romancier, je suis pleinement romancier. Il n'aimait pas le mélange des deux, bien sûr, si les séparations sont toujours un peu arbitraires. Mais malgré tout, oui, je tiens, quand je fais une biographie, à ce qu'elle soit absolument documentée, même cet ouvrage-ci, oui. Ce dictionnaire amoureux de la bande dessinée. Et par contre, dans la fiction, c'est assez curieux, mais on a comme une suspension des censures, on laisse place à une dimension inconsciente, particulièrement dans la collaboration. Avec Françoise Keuten, nous travaillons beaucoup à deux, nous rêvons les histoires à deux, et on se laisse aller, et là, je dirais que mes propres facultés d'analyse sont suspendues, ce qui fait que quelquefois le regard critique que d'autres peuvent porter me surprend et me fait rougir, comme je faisais rougir Hergé en lui détaillant certains impensés des aventures de Tintin.
Lire Tintin, les bijoux ravis, c'est le titre de votre livre qui a été réédité aux Impressions Nouvelles en 2007. Lire Tintin, donc là on est effectivement, on comprend dans cette logique structurale qui est commandée par le texte, mais ce dont on a parlé aussi ensemble, Benoît Peters, c'est de ce à quoi vous avez consacré votre vie, ce qui vous rend amoureux de la bande dessinée, c'est sa puissance visuelle. Et donc, on va regarder plusieurs planches qui, au fond, dès le départ, dès le 19e siècle, met l'image de bande dessinée, à l'épreuve de cette puissance.
Il est amusant d'ailleurs que quand vous m'avez demandé de choisir quelques pages à commenter, beaucoup de ces pages soient muettes ou quasi muettes. Oui. Je dis quasi car quelquefois il suffit d'un titre, il suffit de quelques mots. Mais il m'est arrivé d'ailleurs d'écrire pour la bande dessinée des pages muettes. Mmh. Ou un livre entier, le récit photographique Droit de regard avec Marie-Françoise Plissard qui était entièrement muet. Alors certaines personnes me disaient « Ah là, tu t'es pas beaucoup fatigué. Là, tu n'as pas fait grand-chose. C'est à peine si je pouvais mettre mon nom sur la couverture ou réclamer un droit d'auteur. » Or, écrire une séquence muette représente autant de travail. J'ai choisi parmi les planches une page intitulée « Création » de Claire Bretécher, une autre de Carandache, « Comment on fait un chef-d'œuvre ».
Oui.
Ce sont des narrations parfaites d'une économie totale et qui racontent vraiment. Ce ne sont pas des juxtapositions d'images.
Et commençons par Carandache, justement. Tenez, la voilà la planche que vous vouliez nous...
Alors, je l'adore à plusieurs titres, cette page. D'abord parce qu'elle date de 1888, alors que longtemps, on a cru que la bande dessinée était née aux États-Unis en 1895. Or, si quelqu'un, je pense pas vous, mais si quelqu'un voulait me dire « ceci n'est pas une bande dessinée », alors je lui demanderais vraiment quelle est sa définition. C'est une page en six cases colorées, six cases qui ont à peu près le même cadrage, et on est dans un processus de transformation. Comment on fait un chef-d'œuvre ? On voit un peintre qui a une allure un peu à la Monet, avec une grande barbe. Il y a manifestement un client qui assiste à la scène et un petit chien qui l'observe malicieusement. Et donc, ce peintre, au lieu de travailler minutieusement, comme on le fait encore en ces années-là, prend un très grand pinceau qu'il trempe dans un énorme pot de couleur bleue et asperge.
Perforant.
Et donc, peu à peu, un tableau se dessine. Et quand on voit apparaître une lune ou un soleil à la dernière page, on se dit qu'il y a comme une parodie de la peinture impressionniste, impression soleil levant. Mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est quasi Pollock qu'on a dans cette image. Le peintre se déchaîne, son geste est extrêmement fort, le malheureux client ou acheteur potentiel est tout éclaboussé de peinture, le petit chien, n'en parlons pas. Et on a donc là ce rapport ironique à la peinture. La bande dessinée naissante se moque du grand art.
Oui.
Mais en se moquant du grand art, elle se montre prophétique et elle lui rend hommage. Et la page elle-même est autant un chef-d'œuvre que ce tableau digne du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Vraiment, il y a plein de dimensions, il y a plein de trouvailles partout, sans arrêt. Et on est là, donc bien avant la naissance officielle de la bande dessinée. On est là chez quelqu'un qui est connu avant tout comme un caricaturiste. Caricaturiste d'ailleurs parfois assez marqué politiquement au moment de l'affaire Dreyfus. Oui. Mais qui fait une page que l'on pourrait publier aujourd'hui dans n'importe quel journal sans qu'elle prenne une ride sans qu'elle paraisse porter les 130 ans qu'elle a. Donc j'étais fasciné par ça, comme je suis fasciné par Töpffer au tout début de la BD, et par cette longue tradition de la BD dans la presse, longtemps méconnue, qu'il y a tout au long du 19e siècle.
Alors Töpffer, c'est effectivement la littérature à estampe.
On est dans les années 1830, oui. Donc non pas au moment de l'apparition du cinéma, mais au moment de l'apparition de la photographie, dont d'ailleurs Töpffer s'occupera. Et Töpffer, qui est écrivain, qui est caricaturiste, qui trace des histoires de manière très libre, va être encouragé à publier ses histoires par quelqu'un qui n'est autre que Goethe. Goethe découvre les manuscrits, il est tout à la fin de sa vie, il est d'humeur sombre, et le sourire que lui provoquent les premières histoires de Töpffer l'amène à se pencher attentivement dessus et à se rendre compte qu'une forme d'art nouvelle est en train de naître. Et on l'appellera la littérature en estampe. On n'est pas très loin du roman graphique d'aujourd'hui.
Alors cet art neuf, évidemment, aujourd'hui, on en connaît mieux l'histoire, grâce à vous notamment.
Et à bien d'autres quand même.
Oui, mais enfin, il suffit de lire votre dictionnaire amoureux de la bande dessinée qui nous réunit aujourd'hui, Benoît Peters, pour voir la variété, la diversité mondiale d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que l'Amérique, la Belgique, la France et le Japon, pour saisir au fond cette puissance visuelle. Et puisque vous avez travaillé aussi sur la psychanalyse, je voulais que vous parliez aussi d'une autre planche qui est tout aussi saisissante sur le plan visuel, c'est celle de Winsor McCay.
Alors Winsor McCay donc est un auteur américain du début du XXe siècle. Il est surtout connu pour sa série Little Nemo in Slumberland, les rêves d'un petit garçon qui immanquablement se retrouve à la dernière case au pied de son lit. C'est une époque où la bande dessinée se construit souvent par pages. C'est une époque où la bande dessinée existe d'abord dans la presse, et c'est l'occasion de faire une parenthèse là-dessus, puisque souvent on racontait l'histoire de la bande dessinée par les livres.
Oui.
Toutes les livres, ceux de Christophe, par exemple, la famille Fenouillard, ceux de Bécassine, etc. Les livres avaient mieux survécu que cette immense création qu'il y a eu longtemps dans la presse et qui, aujourd'hui, la numérisation aidant, nous parvient. Alors, chez McCay, il y a une compréhension parfaite de l'unité de la page. Mais chaque fois, ses rêves ou ses cauchemars, ici on est dans les cauchemars de l'amateur de fondue au Chester, ses rêves ou ses cauchemars témoignent d'une intelligence de la bande dessinée incroyable. Donc là, on a un jeune homme, un peu timide, avec une élégante jeune fille assise à côté de lui sur un canapé. Peut-être est-ce sa fiancée, mais on le sent timide et désorienté. Et il lui dit « You are a puzzle to me ». Vous êtes une énigme pour moi. Il la vous voit certainement. Mais déjà, la jeune femme a commencé à se décomposer, à se défaire, Derrida aurait dit, à se déconstruire. Il n'en reste plus que des petits fragments colorés, et l'homme
se
réveille, il n'y a plus rien, elle s'est évaporée. Et la page est d'une magie parfaite, elle est dans une unité de couleurs, où il n'y a pas d'éléments secondaires. Le personnage existe d'abord pleinement, mais sa robe est déjà à poids, très colorée. Et à la fin, voilà, ce n'est plus qu'une sorte de poussière de fiancée. Alors il faut savoir que cette page paraît en 1913, c'est, je crois, l'année où la Traumdeutung, l'interprétation des rêves de Freud, est traduite aux États-Unis. Mais McCay travaille depuis longtemps sur le rêve. Il n'a sans doute pas lu Freud, il en a peut-être vaguement entendu parler, de même qu'il n'a sans doute pas lu précisément L'origine des espèces de Darwin, et que pourtant toute son œuvre est traversée par cette idée nouvelle de la métamorphose.
On entend bien, Benoît Peters, à vous écouter, pourquoi ce dictionnaire est amoureux de la bande dessinée qui, évidemment, grâce à vous et à d'autres qui la consacrent aujourd'hui, trouve son accomplissement esthétique. Il y a évidemment quelqu'un, toujours aux États-Unis, qui a joué un rôle majeur dans la consécration son art. C'est Art Spiegelman. Écoutez-le, c'était au micro de Mathilde Wagman lors de la masterclass sur France Culture en 2024.
Non, Maus, c'est le mélange d'une façon, de plusieurs façons de penser, parce que l'unité de base, c'est bien sûr c'est la case, comme un syntagme en linguistique. Mais l'unité fondamentale de la BD, c'est la page. Chaque page doit avoir sa raison d'être. Donc on peut penser à chaque case comme un mot, et chaque ligne comme un paragraphe, et chaque page comme une pensée complète, du mot au paragraphe. Et d'une certaine manière, c'est peut-être fou de se consacrer à des détails. Mais bon, ça m'a pris 13 ans à faire Maus. Et les gens étaient très intéressés par le récit, mais ils ne savaient absolument pas comment ça a été rendu. En montrant comment certaines pages ont été créées, ça a été utile pour moi et pour d'autres personnes pour l'expliquer. Mais c'est sorti de Breakdowns.
Maus, c'est évidemment une œuvre majeure, tout simplement.
C'est une date essentielle, peut-être à la fois dans l'approche historique de la Shoah. C'est un récit mémoriel, hein. C'est l'histoire du père d'Art Spiegelman, survivant d'Auschwitz, comme d'ailleurs la mère d'Art Spiegelman. C'est l'histoire d'une relation père-fils et la question de la transmission. Mais c'est aussi une bande dessinée qui fonde un nouveau genre, le graphic novel, c'est-à-dire un genre qui va faire entrer la bande dessinée dans les librairies et les bibliothèques, qui va lui permettre d'obtenir un prix Pulitzer, donc un début de légitimation. Maus 2, dont je choisissais la première page, la page inaugurale, comme un très bel exemple, parce qu'on a là aussi la problématique de la création. Maus 1 est paru, le père d'Art Spiegelman est mort entre-temps, il a été bouleversé à la fois par la réalisation de l'œuvre et par les réactions, et il est en train de se demander ce qu'il peut faire, ce qu'il va faire. Alors on le voit avec son masque de souris, car le traitement de ce sujet si important se fait à travers une bande dessinée d'allure animalière, où les Juifs sont des souris et les nazis des chats, les Polonais des cochons, ce qu'ils n'apprécieront pas trop. Art lui-même a ce masque et médite sur ce qu'il va faire maintenant et sur toutes les propositions qu'il a reçues, dont celle d'adapter sa bande dessinée au cinéma. Et c'est là qu'il fait l'éloge de la bande dessinée en tant qu'art, oui. C'est-à-dire « je ne veux pas ». Il a compris, je ne vais pas le comparer à Claude Lanzmann qui travaille dans les mêmes années, mais il a compris qu'une représentation directe de l'extermination dans les camps n'est pas possible. Et lui, son moyen, son biais, c'est le dessin animalier qui ne nous empêche pas d'adhérer, d'être bouleversé par cette histoire. Et on le voit là avec une sorte de tas de cadavres, de souris, sentant l'obscénité de ce que serait l'adaptation et croyant finalement plus que jamais à ce qu'est la bande dessinée en tant qu'art.
Et il le dira encore dans Metamaus, et d'une certaine manière, on le voit bien, on vous fait le coup aussi, Benoît Peters, sur les cités obscures, pour vous faire plaisir, ou parce qu'on croit vous faire plaisir ainsi, on dit, et c'est une manière d'ennoblir votre art, ah ben c'est du roman graphique. Mais en fait, ça vous énerve, tout comme ça l'énervait d'ailleurs, Art Spiegelman.
Oui, il est un des inventeurs du mot graphic novel qui a rendu de grands services aux États-Unis, mais en même temps, il est agacé.
Il veut faire de la bande dessinée.
Il veut faire des comics, il les écrit d'ailleurs comics avec un X à la fin pour montrer cette mixité, on retrouve Töpfer. Et c'est vrai que nous, avec François, d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, on nous dit tantôt, c'est des bandes dessinées, c'est des belles bandes dessinées, et puis un peu plus... Non mais vous, ce n'est plus des bandes dessinées, c'est des romans graphiques.
Oui, c'est ça.
En croyant effectivement qu'on est entré dans l'aristocratie de la bande dessinée, alors que je crois que le mot bande dessinée convient très bien à ce qu'on peut faire.
Et puis c'est ça, évidemment, qui est fait toute la puissance de cet art, c'est qu'il est aussi populaire.
Et modeste en un sens.
Et qu'il est modeste.
Et Arte Povera dans sa fabrique.
Et puis voilà, ça reste du comics, comme le chantait Serge Gainsbourg en 1967.
Viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire swing, il est super cute, ça fait, et ça fait, stop. Ou bien, ou parfois même,
cheval, pas, blanc,
viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
Crac,
des, protéger. Ferme les yeux, embrasse-moi.
Vous êtes bien sûr France Culture, vous écoutez Allons-y voir et nous sommes en compagnie de Benoît Peters et son dictionnaire amoureux de la bande dessinée où on retrouve bien sûr Cabu, Davodo et Fab Caro. Mais on fait aussi des découvertes, enfin j'avoue que pour moi c'en était une, Blue, de cette magnifique artiste mangaka dont on a entendu la voix au début de cette émission, Kiriko Nananan.
Kiriko Nananan, oui, c'est un album qui déjoue tellement les clichés sur les mangas que j'ai eu envie de le mettre à l'honneur. C'était un livre qu'elle a réalisé quand elle était toute jeune femme. C'est une histoire d'amitié amoureuse entre deux lycéennes. C'est dessiné dans un style minimal et le livre culmine dans une scène où l'une des deux coupe les cheveux de l'autre. Et là, on est dans la graphie japonaise. On est dans ce mélange d'écriture verticale et de dessin. Trois cases sur une double page, quelques mèches de cheveux qui s'envolent, un peu plus, et puis la scène qui nous est montrée, ou plutôt qui nous est suggérée, car les expressions des visages ne sont pas montrées. C'est une bande dessinée qui touche vraiment à la poésie,
oui,
qui touche aux arts plastiques, et tout le travail de Kiriko Nananan, hélas disparu prématurément, mais que j'avais eu la chance de rencontrer. Tout le travail de Kiriko Nananan porte sur une forme d'indicible et d'une confiance immense dans les possibilités de la bande dessinée pour suggérer. Et ça, c'est intéressant parce que, par exemple, Hergé, pendant longtemps, s'est dit, pour l'humour et pour l'aventure, la bande dessinée est parfaite, mais pour l'émotion, je ne suis pas sûr d'arriver à la rendre. Il y est arrivé, par exemple, à la fin du Lotus Bleu ou dans Tintin au Tibet, mais c'était pour lui comme une dimension extrêmement difficile à atteindre. Vous avez cité tout à l'heure Emmanuel Guibert, mais on pourrait citer bien d'autres auteurs et autrices aujourd'hui qui ont travaillé précisément sur ces dimensions de non-dit et d'émotion pure. La bande dessinée n'est pas vouée à un seul registre, et je crois que c'est une des évolutions fascinantes des dernières années. J'évoque ici Kiriko Nananan, mais je pense aussi à cet auteur dont j'ai eu la chance d'être l'ami, Jiro Taniguchi, l'auteur du journal de mon père, de Quartier lointain, du sommet des dieux, qui lui aussi, dans les relations familiales, par exemple, dans la peinture des relations avec un animal familier, atteint la même puissance que le cinéaste Ozu.
Et puis, il y a autre chose dont Kiriko Nananan témoigne, c'est de la féminisation de ce métier. Alors, il ne faut pas non plus l'idéaliser, car il y a quelques jours vient de sortir le rapport des états généraux de la bande dessinée, où on montre que, d'une certaine manière, la féminisation de ce métier va de pair avec
la précarisation.
Et les violences également.
Bien sûr, mais en même temps, ce phénomène de la féminisation de la BD, en tout cas en Europe, est essentiel. Au Japon, depuis longtemps, il y avait des dessinatrices et des lectrices. Moi, j'ai grandi dans un monde, et j'ai commencé à publier dans un monde où la bande dessinée était presque exclusivement masculine, où les femmes, comme personnages, étaient quasi absentes. Hein. On avait la Castafiore ou Valentina de Crépax, ou les héroïnes de Manara, mais grosso modo, les femmes n'étaient pas là. Aujourd'hui, les femmes sont très nombreuses, elles sont même majoritaires dans la jeune génération, et il est certain qu'elles ont apporté à la bande dessinée de nouveaux styles graphiques, de nouvelles thématiques et un nouveau public.
Et puis, il y a eu cette pionnière, la magnifique Claire Bretéché, dont Catherine Meurice, qui a quand même été
la première femme académicienne
de l'Académie des Beaux-Arts, a dit de Bretéché qu'elle avait nargué le machisme avec splendeur. Écoutez, là, c'était sur France Inter, le tribunal des flagrants délires, en 1983.
À la question du juge d'instruction, pour quelle faute avez-vous le moins d'indulgence? Vous avez répondu, la créativité. Je hais ça. J'ai vécu avec des créatifs, ils étaient nombrilistes, égoïstes, sans intérêt, invivables.
Oui, oui.
Ça veut dire que vous ne vous entendez pas avec les autres dessinateurs, par exemple?
Si, tant que je ne vis pas avec eux.
Mais vous avez vécu, entre guillemets, avec eux, à l'époque où, avec Mandrika
non,
et avec
Gottlieb... Non, je ne vivais pas.
Non, mais je veux dire, j'ai dit entre guillemets.
Si, je les adore, comme ça, de temps en temps, mais faut pas les voir trop souvent, c'est vrai. Mm-hmm. Comme tous les créatifs, ils sont invivables.
Mais qu'est-ce que vous opposez aux créatifs?
Les employés de banque.
Ah bon, vous les trouvez plus rigolos?
Oui.
Bah tu vois, parce t'as des chances.
Parce qu'ils ont rien à dire.
Oui, exactement, voilà. Au moins, ils vous écoutent.
Ah, vous avez besoin qu'on vous écoute?
C'est de la misandrie, carrément.
La misandrie, tu dis?
Oui, c'est le contraire de la misogynie. Je ne l'ai pas inventé, c'est que je l'ai vu dans un gros dictionnaire. Ouais.
Mais lorsque vous répondez ça, en fait, ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez des rapports en dehors de ceux du guichet de votre banque avec les employés de banque. Non, vous vivez dans un milieu plus protégé que cela.
C'est une façon de parler, non. J'aime bien que les gens aient des boulots un peu techniques qui ne leur demandent pas de s'arracher les tripes. Parce que là, ils deviennent vraiment difficiles.
Pourquoi? Parce qu'ils font souffrir les autres en disant « Regarde,
oui, c'est
difficile,
ça, c'est ça.
Ce que je fais. »
Non, ils souffrent eux-mêmes, c'est un fait, mais ce n'est pas une raison pour faire chier tout le monde.
Et vous pensez que vous êtes comme ça également, avec les autres, avec ceux de votre entourage?
Non, moi je suis très bien.
Ah bon? Vous créez en silence?
Oui, à peu près.
À peu près.
Alors, créer en silence et ne pas faire chier tout le monde, c'est très exactement le thème d'une planche dont vous voulez parler, de Claire Bretéché.
Oui, alors création. Je n'imaginais pas que vous trouveriez cet extrait radiophonique autour de la créativité, puisque la planche que j'ai choisie s'appelle Création. C'est une page en noir et blanc, 20 cases, donc 5 bandes de 4 cases. On est dans une écriture assez minimale, un seul personnage qui est à sa table de dessin à la première case, avec une petite lampe au-dessus d'elle, et qu'on retrouve, un peu comme dans Little Demo, qu'on retrouve à la dernière case, dans une attitude inchangée. Alors, évidemment, ce sont toutes les stratégies d'évitement, toutes les formes de procrastination qu'on voit dans cette page, c'est-à-dire que pour ne pas dessiner, ou peut-être pour ne pas écrire, c'est un peu la même chose, elle cherche, cette femme, toutes les échappatoires possibles, faire un petit peu de ménage, passer aux toilettes, manger un morceau, tourner en rond, enfin bref, c'est une page extrêmement drôle, et ce qui est très fort chez Bretéché, outre la capacité de dialoguiste, mais la capacité aussi de narratrice purement par l'image, ce qui est très fort, c'est qu'elle peut caricaturer autant les femmes que les hommes. Pendant longtemps, c'était un peu tabou dans la bande dessinée. On se disait, la femme, elle doit être dépeinte de façon jolie. Et l'homme, on peut le caricaturer multiplement. Je crois que même les caricaturistes politiques ont souvent eu un petit peu ce problème-là. Or, Bretéché, elle, n'hésite absolument pas. Elle joue avec des personnages, des faciès, des expressions, des gestes, pas forcément flatteurs et pourtant extraordinairement vivants. On revient à Roland Barthes, hein, puisqu'il avait dit, au moment où elle est arrivée dans le Nouvel Observateur, qu'elle était la meilleure sociologue de l'année. Était cela et bien plus.
En vérité, écrire, dessiner, c'est jeter des sorts, disait Émile Ferris, l'autrice de « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ».
Un autre chef-d'œuvre récent.
Un autre chef-d'œuvre dont vous dites, Benoît Peters, dans votre dictionnaire amoureux, quand un projet aussi audacieux que « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » rencontre les faveurs d'un public aussi nombreux et aussi divers, c'est pour la bande dessinée tout entière un encouragement à poursuivre l'exploration de nouveaux territoires. Là, effectivement, on comprend comment on peut conjurer par les sorts justement cette difficulté à dessiner. Dessiner encore, écrire encore. Vous-même, vous l'avez sans doute éprouvé, cette difficulté avec les cités obscures. Tenez, je voudrais vous faire voir une des planches des cités obscures qui n'est pas tout à fait comme les autres. Comment on en arrive à hybrider ainsi le dessin et la photographie?
C'est vrai que nous avons toujours voulu faire avec François des expériences, que chaque album soit un enjeu et sa propre technique. Et dans cette histoire, l'enfant penché, non seulement nous avons fait entrer un ami, Martin Von James, dessinateur de l'album La Cage et peintre, et notre ami photographe Marie-Françoise Plissard. Nous avons hybridé le récit photographique et la bande dessinée. Ce sont deux mondes qui se rencontrent, qui se croisent, deux personnages qui vont dans une sorte de no man's land entre le dessin et la photographie, trouver un espace amoureux. Et à un moment, le peintre veut quitter la jeune femme, mais celle-ci lui saisit la main, et en saisissant la main, elle y imprime pour toujours comme des stigmates, des hachures, si caractéristiques du style de François Skuyten. C'était la rencontre de deux familles d'images. Et je dois dire que ce moment qui reste pour moi très important, ce moment un peu miraculeux de rencontre, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu anticiper. Ça n'aurait pas pris la forme d'un scénario de papier. C'est quand on l'a vu sur la page qu'on a senti qu'il se passait là un vrai événement, oui, en partie imprévisible. Voilà. Et donc ça, c'est ce que j'adore dans la collaboration, c'est cette idée que dans deux têtes, tout d'un coup, surgit quelque chose qui nous emmène bien ailleurs que là où on croyait.
Et un événement qui relance l'envie de dessiner encore. Ben, c'est ce dont nous parle Mathieu Pot-Bonneville cette semaine dans sa carte postale. Vous savez, Mathieu Pot-Bonneville qui est directeur du département culture et création du Centre Pompidou.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, c'était il y a 30 ans et quelques semaines. Le 31 décembre 1995, plus de 2400 journaux à travers le monde publièrent une demi-page presque blanche. Dans sa moitié supérieure, un petit garçon et un tigre portant une luge semblaient s'y enfoncer jusqu'à la taille, écartant tour à tour les bras pour, dans un large sourire, s'émerveiller de l'ampleur immaculée du papier autour d'eux. Il avait neigé sur la page. Dans sa moitié inférieure, le blanc avait tout envahi, à peine griffé d'un sillon au sommet duquel les deux personnages glissaient hors de notre vue avec ces mots « Let's go exploring », bulle blanche sur fond blanc, comme une toile de Malevitch. 10 ans à peine après leur entrée en scène, et 3160 strips plus tard, Calvin et Hobbes s'éclipsaient en pleine gloire. Leur auteur Bill Watterson ayant décidé de mettre fin à la série pour, expliquait-il, ne pas affadir par la répétition un univers où il lui semblait avoir dit l'essentiel. De manière aussi à ne pas laisser les journaux céder à la facilité en le publiant indéfiniment lui, plutôt que de se risquer à accueillir de nouveaux et de plus jeunes talents. Il s'agissait donc pour l'auteur de Calvin et Hobbes de s'imposer une limite et de faire de la place. Or, 10 ans durant, Watterson ne fit en réalité rien d'autre, à l'extérieur comme à l'intérieur de ses récits. À l'extérieur, l'auteur refusa obstinément que les personnages qu'il avait créés fassent l'objet d'une commercialisation quelconque sous forme de produits dérivés. Il estimait qu'il n'avait rien à faire sur des t-shirts ou des tasses de café. De la même façon, il exigea contractuellement que les journaux diffusant ces histoires leur concèdent une demi-page, sans retoucher le format, imposant ainsi une forme de coup d'arrêt à la réduction des espaces dévolus dans la presse à la bande dessinée depuis l'après-guerre. Ainsi, le petit garçon et son tigre ont-ils vu leur monde préservé à la fois de l'expansion et de la dilution indéfinie que leur promettaient les courtiers de l'universel marchand. Or, à entrer cette fois à l'intérieur des cases, c'est ce même tracé d'une délimitation qui rend l'œuvre de Watterson singulière et bouleversante. Car si les aventures de Calvin et Hobbes s'adressent aux enfants et aux adultes, si elles trouvent leur lectorat, comme dit l'autre, de 7 à 77 ans, c'est sous la condition perpétuellement rappelée d'une césure, d'une scission des points de vue qui voit le tigre redevenir une peluche sitôt qu'un adulte entre dans le champ, et l'explorateur spatial ramené, non sans protestation, à son statut d'enfant turbulent. Philosophiquement bien plus hobbien que son tigre, Calvin veut tout, avec férocité, mauvaise foi et une imagination sans bornes. Mais ce tout jouxte un monde social où il faut se lever, prendre son bain, s'ennuyer à l'école, et chaque strip interroge et retrace sans complaisance cette différence même. Pas étonnant alors que le tout dernier tour de luge de Calvin et Hobbes joue de la réserve, comme on dit en art lorsque la figuration naît du renoncement même à recouvrir le support. « C'est comme une grande feuille blanche pour dessiner », s'exclame le tigre sur la page neigeuse. Car la réserve, ce n'est pas seulement ce qui aura marqué le tempérament de Watterson, son refus de se laisser photographier, ou son obstination politique à décliner la richesse promise. Elle est ce qu'auront ménagé ses dessins entre deux phrases écrites, ou l'agitation et les rêves d'un gamin au milieu des nouvelles du jour, réserves sans lesquelles ce sont peut-être les phrases et les nouvelles qui seraient vaine agitation. Dès lors qu'il y a une enfance de l'homme dont l'expropriation est le sujet du langage, le langage apparaît comme le lieu où l'expérience doit devenir vérité, écrit Giorgio Agamben dans Enfance et Histoire. Si vous voulez mon avis, Patrick, dans sa jeunesse, ce type devait avoir un tigre.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Continuer ou faire de la place, continuer malgré les passages à vide, étonnant quand même que Calvin et Hobbes, qui est si présent dans notre imaginaire, ça a duré 10 ans. Et on lit aussi dans votre dictionnaire amoureux de la bande dessinée, Benoît Peters, que Mafalda, petite fille argentine qui veut tout aussi, comme Calvin, 9 ans.
Oui. Oui, c'est extraordinaire. C'est un peu l'inverse des Peanuts de Charles Schulz, qu'il a continué jusqu'à son dernier souffle. Mais dans chacun de ces cas, on a la magie propre de ce qu'est le comic strip. Mmh. Le strip journalier, le strip quotidien. Car chaque strip vaut par rapport à la mémoire de tous les autres. Et ce qui se crée peu à peu, c'est une interférence entre le quotidien des personnages et le quotidien des lectrices et des lecteurs. Ils ont pris souvent la série en route. Et pourtant, ils s'attachent à ces personnages. Il y a cette familiarité qui se crée et qui donnait, puisque ça, c'est une forme qui a presque disparu aujourd'hui, une connivence absolument extraordinaire. Aujourd'hui, l'acte qu'on a quand on veut lire une bande dessinée, c'est d'abord d'acheter un album ou de l'emprunter. Donc, il faut qu'on ait ce mouvement personnel vers l'histoire. Là, ça venait vers vous. Et oui. Je pense qu'il y a une magie. Et ces personnages, Mafalda, par exemple, ont incarné pour une génération, pas seulement en Argentine, vraiment une sorte d'ami.
Ça se termine en 1973, c'est
oui,
ça?
Oui, il s'arrête en pleine gloire, en partie pour des raisons politiques, mais pas seulement, parce que c'est une discipline extraordinaire que de faire vivre minimalement ces personnages. C'est d'abord une école du dessin, hein, où chaque trait compte. C'est une école de la reproduction, puisqu'à l'exception de Calvin et Hobbes, souvent c'est très très petit, et donc il faut que le dessin passe à l'ère de la reproductibilité technique, mais il y a surtout, je crois, cette dimension d'attachement qui est quelque chose de presque consubstantiel à une partie de la bande dessinée. Et je regrette que la presse aujourd'hui ne lui accorde pas plus de place, qu'on n'ait plus la chance de vivre avec ces personnages de papier.
Et ça, ces personnages de papier, avec Calvin et Hobbes, avec Mafalda, évidemment, on est dans l'enfance.
On est dans l'enfance, mais en même temps, on s'adressait à toutes et tous. C'est des séries qui, manifestement, peuvent plaire à tout un chacun et qui continuent à vivre dans nos mémoires.
Victims have been bled red.
Bela Lugosi's Dead, 2006, c'est une reprise de Nouvelle Vague. Bah tiens, puisqu'on parle de la Nouvelle Vague, la voilà. Bonjour Hortense Bellotte, ça va?
Bonjour Patrick Boucheron, ça va très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit?
Eh bien d'abord, je vous dis merci de m'avoir fait découvrir cet ouvrage du dictionnaire amoureux de la BD. Je pensais ne rien connaître à ce domaine. Et en fait, la BD c'est fantastique, on a plein de refs.
Bah oui.
Qu'on pensait même pas avoir. Alors là, d'abord, il y a une entrée dédicace qui m'a beaucoup émue et qui m'a tout de suite replongée en 1994 lorsque j'étais allée faire dédicacer mon album de Sylvain et Sylvette, La Grotte de Patatrac par Jean-Louis Pêche au salon du livre jeunesse de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Sur la page de garde, le dessinateur y avait représenté Sylvette en personne me tendant un gâteau surmonté de 7 bougies et une bulle qui disait « Bon anniversaire Hortense ». Et bah oui. Et ça c'est quand même le grand avantage des dessinateurs de BD qu'ils ont sur les auteurs de livres normaux. Mm-hmm. Et par exemple, bah là, par exemple, Patrick Boucheron, je vous ai ramené votre ouvrage sur la peste noire. Si vous pouviez le dédicacer pour
avec
mes parents.
Plaisir. Oui.
Voilà. Mes parents s'appellent Christian et Bernadette.
Je vais vous faire ça.
Et si vous pouvez me dessiner un bubon, par exemple.
J'ai arrêté de dessiner les bubons à 10 ans. C'est ce que j'expliquais au début.
Mais
de
essayez quand même.
Oh, j'essaye, d'accord.
Okay. Parce que c'est plus affectueux, je trouve, un petit dessin que quelques mots.
J'essaye.
Merci beaucoup. Et puis, j'ai été aussi très surprise dans votre ouvrage par certaines entrées auxquelles on n'aurait pas pensé. Il y a Steven Spielberg, Federico Fellini et Nadar, le photographe du 19e siècle. Et grâce à vous, j'ai découvert sa bande dessinée « La vie privée et publique de Monsieur Réac », qui est fantastique. Alors, c'est une caricature de la bourgeoisie réactionnaire, opportuniste, qui travaille dans la finance, le journalisme et la politique et qui est parue en 1849 dans la revue « Comique à l'usage des gens sérieux ». Alors, tout est savoureux dans ce titre. Et c'était une revue très hostile à Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, qui a fini d'ailleurs de paraître après la loi de juillet 49 sur la liberté de la presse. Mmh. Et j'ai aussi été très émue par les entrées Aya Diopougon et Persepolis, qui bizarrement résonnaient énormément avec l'actualité. Et j'étais aussi très heureuse d'y trouver une entrée féminisation. Déçue un petit peu peut-être de ne pas y trouver une entrée décolonisation de la bande dessinée, parce que c'est vrai qu'entre...
Il y a du boulot, oui.
Oui, c'est ça. Entre Astérix, Spirou, Les Schtroumpfs et Tintin autour du monde, il y avait quand même de quoi faire. Et je me souviens d'ailleurs, il y a une dizaine d'années, la BD conceptuelle s'était un petit peu emparée de la question de manière humoristique avec un Tintin au Congo à poil ou encore le Tintin à Kei Congo d'Ilan Manouak qui était traduit en Lingala. Et les deux usaient d'un procédé très simple qui est de reprendre exactement les planches d'Hergé en modifiant un seul élément suffisamment évocateur pour modifier notre regard. La nudité du héros ou la langue. Et j'ai été très heureuse surtout de trouver une entrée Lisa Mandel ou Alison Bechdel.
Ah oui.
À propos de laquelle justement, je venais de lire un petit essai tout juste paru chez De Noël, La véritable histoire du test de Bechdel, un essai d'Iris Bray en dialogue avec Alison Bechdel elle-même qui vient de sortir. Et tout commence en fait par une planche que j'aimerais lire avec vous. Alors, c'est deux copines qui discutent devant un cinéma. Et pour donner un petit peu de relief, j'aimerais bien que vous me donniez la réplique, Patrick Boucheron.
La copine,
bah, vous imaginez que vous êtes ma copine.
Déjà que je viens de faire la dédicace. Ok, donc on y va. On se ferait pas un film en mangeant du pop-corn?
Ben, je sais pas. J'ai cette règle, tu vois. Je ne vais voir un film que s'il répond à trois conditions de base. Une, il faut qu'il y ait au moins deux femmes dedans. Qui deux parlent ensemble, trois d'autre chose que d'un homme.
Plutôt strict, mais assez bien vu.
Sans blague, le dernier film que j'ai pu voir, c'était Alien. Les deux femmes dedans parlent ensemble du monstre.
On va chez moi et on se fait du pop-corn?
Ça, c'est une idée. Alors, cette planche, c'est l'une des Dykes to Watch Out For, les Gwyn à suivre, une série feuilletonnante à forte dimension autobiographique qu'Alison Bechdel, d'ailleurs en anglais, publie à partir des années 80. Et cette planche date de 1985. Cette planche a été à l'origine d'un test qui est devenu très connu et qui a une vie complètement indépendante de son autrice, qui elle-même est devenue très connue d'ailleurs après l'apparition de Fun Home en 2006. Et dans le petit essai qui vient de paraître, l'autrice qu'on interroge déclare ne pas tellement assumer le succès de cette blague, qui, devenue test, perd selon elle sa dimension politique et subversive, comme si le féminisme mainstream et le capitalisme l'avaient complètement récupéré. Et quand on regarde cette fameuse planche, eh bien en fait ce sont deux amies, ouvertement Gwyn, dont l'une est noire, celle qui explique justement la règle. L'autre blanche, toutes deux sont cheveux courts, débardeurs sans soutif, mains dans les poches et qui renoncent à aller au cinéma, dont les affiches caricaturent les productions masculinistes, qui sont d'ailleurs tout à fait plausibles.
Les titres inventés sont devenus ceux de films réels.
De véritables films. Ben, c'est la preuve. Et en fait, la règle de Bechdel, dit-elle, c'est une blague de Gwyn, séparatiste radical, d'abord, avant d'être un outil de testing culturel. Et le test, d'ailleurs, n'a pas vraiment d'autrice.
Oui.
Et Alison Bechdel dit qu'elle-même, elle l'a emprunté à son amie Liz Wallace, qu'elle-même l'avait eu en lisant Virginia Woolf, qui elle-même en avait eu l'idée en lisant un livre imaginaire. Bref, elle nous dit que le constat de l'invisibilisation des femmes dans la culture, c'est en fait le béaba de toutes les conversations entre meufs depuis la nuit des temps. Chacune après l'appelle bien comme elle veut, qu'on l'appelle test de Bechdel ou syndrome de la Schtroumpfette, que j'ai découvert.
Schtroumpfette,
pardon, c'est dur à dire.
Oui.
Mais en fait, ce qui fait la puissance, je crois, de cette planche, en tant que planche de BD, c'est sans doute la tautologie qu'elle suppose quand on la lit. C'est que la planche de Bechdel, en s'écrivant, passe elle-même le test de Bechdel et nous prouve qu'il est tout à fait possible d'écrire une planche mémorable à partir d'une conversation anodine entre deux Gwyn banales, interprétées aujourd'hui par Patrick Bourchon et moi-même. Une planche à soi, finalement, qui, en fait, 40 ans après sa parution relativement confidentielle, a atteint aujourd'hui le statut de véritable icône.
Une planche à soi, Benoît Peters.
C'est magnifique.
Oui.
C'est magnifique. Et c'est vrai qu'Alison Bechdel fait partie de ces autrices qui ont eu un impact extraordinaire dans les universités américaines. Jusqu'il y a peu, c'était une des bandes dessinées les plus étudiées que Fun Home, au même titre que Maus et Persepolis. Voilà. Ce sont des livres qui ont vraiment traversé les frontières. Et ce sont trois livres, hélas, aujourd'hui, très menacés dans l'Amérique trumpiste. On les chasse des bibliothèques et même de certains magasins.
Sur ce dont parlait Hortense Bellotte, évidemment, la question coloniale sur Tintin, pour vous qui êtes un amoureux d'Hergé, qui en avait fait une biographie sans complaisance d'ailleurs, comment vous vivez les débats actuels sur la question de savoir comment on édite aujourd'hui Tintin?
Vous et moi, nous avons eu la chance d'écouter à La Grâce, au banquet du livre, de La Grâce, la conférence de Laure Murat.
Oui.
Toutes les époques sont dégueulasses. Tintin au Congo est longuement évoqué et remarquablement, de manière très très nuancée. Moi, je me dis toujours que le premier Tintin au Congo, celui de 1930, en noir et blanc, c'est un document extraordinaire sur le colonialisme parce qu'il porte son âge et qu'il peut être commenté, mais que le Tintin au Congo en couleur, édulcoré de 1945, celui qui est toujours là, il est un peu sans date et à ce titre-là, beaucoup plus embarrassant.
C'était Allons-y voir. Merci à vous deux, Benoît Peters et Hortense Bellotte. Les références de vos ouvrages, dictionnaires, BD, essais, sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Anouk Minaudier, à la prise de son Anthony Thomasson et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous toutes et tous.
Un homme dans une gare isolée.